Rome établit la vision, numéro 15.
L'épreuve finale. Éveil à la controverse prophétique autour de l'image de la bête.
Nous sommes maintenant dans la période d'épreuve de l'image de la bête, et la première controverse prophétique de l'histoire de l'adventisme est en train de se répéter. En juillet 2023, Michel l'archange est descendu pour réveiller les ossements morts et desséchés d'Ézéchiel qui gisait, mis à mort, dans la rue de cette grande ville de Sodome et d'Égypte. Là, au chapitre 11 de l'Apocalypse, ils sont tirés de leur sommeil de mort par l'effusion de l'Esprit. Au chapitre 37 d'Ézéchiel, le message des quatre vents est identifié comme le message qui transforme les ossements morts et desséchés, identifié comme toute la maison d'Israël, en l'armée du Seigneur. Le prophète Daniel représente les deux témoins de Jean, mis à mort, et il représente aussi ceux de la vallée des ossements morts et desséchés, ainsi que les vierges sages de la parabole.
Lorsque les Millerites ont accompli la parabole, ils ont reconnu que leur expérience était représentée dans la parabole. Les 144 000 devront aussi reconnaître qu'ils avaient été dans le temps d'attente. Comme Daniel au chapitre 9, ils devront reconnaître qu'ils avaient été dispersés dans le pays de leurs ennemis, comme le représentent les sept temps de Lévitique 26, et aussi comprendre l'image secrète des bêtes de Nabuchodonosor. Dans chacune de ces lignes, une épreuve prophétique tirée de la parole de Dieu est représentée. Les deux témoins morts dans la rue sont remplis de l'esprit lorsqu'ils sont ressuscités. Les ossements morts d'Ézéchiel avaient besoin d'entendre un message prophétique. Daniel étudiait les écrits de Moïse et de Jérémie lorsqu'il a été réveillé à sa situation de dispersion. Au chapitre 2, Daniel et les trois fidèles ont été métaphoriquement réveillés au fait qu'ils avaient été placés sous un décret de mort. Et ensuite, la lumière prophétique qui avait été cachée puis décelée a sauvé Daniel et ses trois amis. Les vierges de la parabole sont réveillées par un cri, à minuit. Les Millerites ont été réveillées lorsque le Christ a retiré sa main des chiffres du tableau. Dans les six témoins, c'est un message prophétique qui réveille les morts ou ceux qui dorment. Cela produit ensuite une épreuve au terme de laquelle deux classes se manifestent. Sur la base de ces lignes, il est établi que, lorsque les 144 000 seront réveillés dans les derniers jours, il s'agit du message d'Ézéchiel sur les quatre vents et de la dispersion sept fois annoncée par Moïse dans Lévitique 26. C'est le message de la résurrection qui est apporté par l'archange Michel. C'est le message du rêve secret de Nabuchodonosor concernant l'image des bêtes. Les vierges sont éprouvées selon qu'elles ont ou non de l'huile, laquelle est identifiée comme étant les messages de l'Esprit de Dieu. Les Millerites ont été éveillés lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient identifiés dans la parole prophétique de Dieu, et aussi lorsqu'ils ont vu que les mêmes preuves qui les avaient d'abord conduits à prédire 1843 annonçaient en réalité le 22 octobre 1844. À partir de ces lignes, il est établi que, lorsque les 144 mestes mille seront éveillés dans les derniers jours, ils le seront par un message prophétique des preuves qui produit deux classes d'adorateurs.
Toutes ces lignes trouvent leur accomplissement parfait et final durant la période des preuves prophétiques, représentée par la formation de l'image pour et de la bête. Cette épreuve s'achève lorsque le temps de grâce se clôt pour les vierges à la loi du dimanche. Ainsi, le processus d'épreuve de l'image de la bête a plusieurs reprises présenté comme une épreuve qui manifeste ceux qui ont compris le message qui a été décelé et représenté par toutes ces lignes prophétiques. Dans Daniel 12, les sages qui comprennent l'accroissement de la connaissance traversent un processus de mise à l'épreuve en trois étapes, représentées comme étant purifiées, blanchies et éprouvées. Ces trois étapes sont celles de la conviction opérée par le Saint-Esprit, représentant une conviction de péché, de justice et de jugement. Ces trois étapes sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ces trois étapes sont aussi représentées dans les trois anges d'Apocalypse 14, ainsi que dans l'expérience de Daniel et de ses trois compagnons au chapitre 1. Là, ils ont d'abord réussi une épreuve alimentaire, puis une épreuve visuelle. Et enfin, ils ont réussi la troisième épreuve donnée par le roi du Nord, représentée par Nabuchodonosor.
Quant à ces quatre jeunes gens, Dieu leur donna de la connaissance et de l'intelligence dans toute science et toute sagesse. Et Daniel avait l'intelligence de toutes les visions et de tous les songes. Or, à l'issue du délai que le roi avait fixé pour les présenter, le chef des eunuques les introduisit devant Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi eux tous, on ne trouva personne comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils se tinrent devant le roi. Et pour toutes les questions de sagesse et d'intelligence sur lesquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel 1, 17, 20.
Le dernier des trois tests pour Daniel et les trois hommes de valeur fut une épreuve menée par Nebuchadnezzar, typifiant ainsi l'épreuve prophétique finale. L'épreuve que Daniel et les trois hommes de valeur préfigurent concerne Babylone, car Nebuchadnezzar était le roi,
ce qui, dans Ésaïe chapitre 7, versets 8 et 9, établit qu'un roi, la capitale d'une nation, et une tête sont des symboles interchangeables. La tête représente la tête de la Babylone moderne dans les derniers jours. Cette tête, dans les derniers jours, est la prostituée de l'Apocalypse 17, qui porte écrit sur son front « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées des abominations de la terre ». Le dernier test prophétique des 144 000 est associé à une compréhension correcte ou incorrecte de la tête de Babylone moderne dans les derniers jours. Leur dernier test consiste aussi à comprendre que Babylone moderne et Rome moderne sont des symboles interchangeables et que par conséquent, la tête de Babylone moderne est la même tête dans l'une ou l'autre ligne, car ce sont des symboles interchangeables.
Le monde est rempli de tempêtes, de guerres et de discordes. Pourtant, sous un seul chef, le pouvoir papal, le peuple s'unira pour s'opposer à Dieu en la personne de ses témoins. Témoignage, volume 7, 182.
Daniel et les trois compagnons montrent que l'épreuve prophétique finale, car c'est toujours une épreuve portant sur la prophétie, est une épreuve au sujet de Rome, car dans les derniers jours, la tête est la puissance papale, qui est typifiée par Nabuchodonosor, la première tête de Babylone, lequel mit personnellement à l'épreuve Daniel et les trois compagnons. La controverse typifiée par Daniel et les trois compagnons est également préfigurée par la première controverse dans l'histoire fondatrice de l'adventisme, telle qu'elle est représentée sur le tableau de 1843, qui fut dirigé par la main du Seigneur et ne devait pas être modifié. La controverse présentée sur le tableau de 1843 était fondée sur l'identification d'Antiochus Épiphale, ou de la Rome païenne, comme la puissance qui a établi la vision au verset 14 du chapitre 11 de Daniel. Dans l'histoire des derniers jours, les 144 000 seront mis à l'épreuve quant à leur compréhension prophétique. La compréhension prophétique est établie par les différentes lignes de prophétie qui appuient le caractère prophétique de l'épreuve finale. L'épreuve sera progressive et se conclura par la manifestation de deux catégories d'adorateurs. Comme le représente le chapitre 12 de Daniel, le processus d'épreuve commence lorsqu'une nouvelle lumière prophétique est dévoilée, et la première épreuve consiste alors à manger le message ou à le rejeter. Cette épreuve est représentée par Daniel comme « purifiée », et la suivante, Daniel l'a appelée « blanchie », et le processus s'est achevé à la troisième et dernière épreuve, représentée comme « éprouvée ». La troisième et dernière épreuve est celle où les deux classes sont éprouvées, et c'est là qu'elles révèlent si elles ont de l'huile ou non. Le chapitre 1 de Daniel identifie directement la dernière épreuve, et par conséquent, Daniel identifie l'épreuve qui est représentée comme la formation de l'image de la bête, qui est l'épreuve que le peuple de Dieu doit réussir, à la fois avant qu'il soit scellé et aussi avant que la probation se ferme au moment de la loi du dimanche imminente. Le test portant sur la manière dont l'image de la bête se forme implique l'épreuve prophétique qu'est la compréhension de la structure prophétique de la triple union. Le dragon, la bête et le faux prophète ont une structure prophétique spécifique, établie sur une multitude de témoins prophétiques. Comprendre comment la triple union se constitue en une seule puissance prophétique dans les derniers jours, c'est comprendre comment l'image de la bête se forme. Une illustration à la fois simple et complexe de l'importance de comprendre comment se forme l'image de la bête dans les derniers jours est le témoignage de Paul concernant l'homme du péché au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Paul traite de la relation prophétique entre la Rome païenne et la Rome papale, et ce faisant, il indique que la relation prophétique entre la Rome païenne et la Rome papale est un sujet qui manifeste deux classes d'adorateurs. Un groupe qui aime la vérité de la relation prophétique de la Rome païenne et de la Rome papale, et un autre groupe qui n'aime pas cette vérité et reçoit donc une puissante illusion. Le passage où Paul a exposé la relation prophétique entre la Rome païenne et la Rome papale n'est que l'un des nombreux passages prophétiques qui représentent la relation entre ces deux puissances, ainsi que la relation de ces deux puissances avec les États-Unis. La Rome païenne est le dragon, la Rome papale est la bête, et les États-Unis sont le faux prophète. Achab est le roi dragon de 10 rois, marié à Jézabel la prostituée, qui règne sur un double ensemble de faux prophètes. Les prophètes masculins étaient les prophètes de Baal, et les prêtres du bosquet représentaient la déesse féminine Ashtaroth. Ensemble, ils préfigurent le faux prophète des derniers jours, qui forme une image de la bête, telle que représentée par les prêtresses et les prophètes masculins. Le dragon, c'est Achab, qui est un symbole des 10 rois d'Apocalypse 17, et il est le 7e des 8 royaumes. Le 6e royaume, ce sont les États-Unis, les faux prophètes de Jézabel. Le 7e royaume, ce sont les 10 rois, les Nations Unies, la puissance du dragon. Et le huitième royaume, issu des sept, est le cinquième royaume qui a reçu une blessure mortelle, ressuscité comme le huitième et dernier royaume qui est la bête, à laquelle les États-Unis, puis le monde entier, érigent une image. À son image.
Le chapitre 1 de Daniel identifie une épreuve prophétique finale qui implique de comprendre Rome telle qu'elle est représentée dans la parole de Dieu. La deuxième épître aux Salossiniens précise que l'épreuve prophétique finale comporte un éclairage sur la structure de la Rome moderne telle que représentée par la relation prophétique et politique entre la Rome païenne et la Rome papale. Le chapitre 2 de Daniel montre qu'il existe un secret qui est dévoilé dans les derniers jours et qui met à l'épreuve les 144 000, car Daniel et ses trois compagnons du chapitre 2 représentent le peuple de Dieu des derniers jours. Le secret prophétique qui est dévoilé et qui par conséquent les met à l'épreuve est le rêve secret de Nabuchodonosor au sujet de l'image des bêtes, représentant ainsi la dernière épreuve pour les 144 000, laquelle est, comme l'a écrit Sir White, la formation de l'image de la bête. L'épreuve représentée par le chapitre 2 du livre de Daniel se déroule sous la menace de mort. En tant qu'illustration des derniers jours, elle confirme ce que Paul a enseigné lorsqu'il a désigné la puissance d'égarement qui s'abat sur ceux qui n'aiment pas la vérité. Dans l'histoire de Daniel, sa compréhension a sauvé les sages de Babylone, mais il n'y a pas de probation après l'épreuve finale des derniers jours. Chaque ligne de la controverse concernant Rome en tant que symbole que nous avons identifié constitue un témoignage direct de la controverse qui se déroule actuellement. Alors que le mouvement en faveur d'une législation dominicale progresse désormais dans les ténèbres, la parole prophétique de Dieu enseigne à l'approche, bien que très peu d'âmes soient des enfants du jour, et ceux qui ne sont pas des enfants du jour ignorent donc que les sables du temps de probation s'écoulent rapidement. Cela se produit dans le contexte identifié par Sir White, où les derniers mouvements seront rapides. En juillet 2023, Michel est descendu pour mettre son armée puissante sur pied, mais pour faire partie de cette armée, il y a une œuvre prophétique qui doit d'abord être accomplie. Et elle s'accomplit dans l'environnement politique où l'image de la bête est en train de se former. Le travail prophétique qui doit être accompli comprend la reconnaissance de la formation de l'image de la bête. L'étudiant de la prophétie doit reconnaître, à travers les événements de l'histoire contemporaine, que les facteurs religieux et politiques qui produisent l'image de la bête aux États-Unis sont à l'œuvre. L'étudiant doit également reconnaître, selon la parole de Dieu, comment l'image de la bête se forme prophétiquement. Il doit aussi reconnaître qu'à mesure que l'image de la bête se forme aux États-Unis, l'image de Dieu se forme chez les 144 000. Il doit comprendre le parallèle entre l'histoire de la fin des temps et celle des Millerites lors du développement du message du cri de minuit dans leur histoire, lorsqu'ils furent éveillés au fait qu'ils se trouvaient dans le temps d'attente de la parabole et qu'ainsi ils étaient eux-mêmes les vierges. Ces trois éléments font partie de l'épreuve prophétique qui a commencé à se dérouler en juillet 2023. Ligne sur ligne, chaque controverse au sujet de Rome qui a surgi dans l'histoire adventiste était une histoire sacrée qui se répète dans les derniers jours. La controverse finale au sujet de Rome découle directement du refus du peuple de Dieu de s'éveiller au message parvenu en juillet 2023.
Dieu veillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des hérésies s'introduiront parmi eux et les passeront au crible, séparant l'ivraie du bon grain. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient à sa parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière est venue pour ce temps. C'est la vérité biblique qui montre les périls qui nous menacent de près. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen des plus rigoureux des positions que nous soutenons. Dieu veut que tous les tenants et aboutissants de la vérité et toutes ses positions soient recherchés à fond et avec persévérance, avec prière et jeûne. Les croyants ne doivent pas se reposer sur des suppositions et des idées mal définies de ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être fermement fondée sur la parole de Dieu, afin que lorsque viendra le temps de l'épreuve et qu'ils seront amenés devant des conseils pour répondre de leur foi, ils soient capables de donner la raison de l'espérance qui est en eux, avec douceur et crainte.
Agitèse. Les sujets que nous présentons au monde doivent être pour nous une réalité vivante. Il est important qu'en défendant les doctrines que nous considérons comme des articles de foi fondamentaux, nous ne nous permettions jamais d'employer des arguments qui ne soient pas entièrement solides. Ceux-ci peuvent suffire à faire taire un opposant, mais ils n'honorent pas la vérité. Nous devrions présenter des arguments solides qui non seulement réduiront nos adversaires au silence, mais résisteront à l'examen le plus rigoureux et le plus approfondi. Parmi ceux qui se sont formés comme débatteurs, il y a un grand danger qu'ils ne traitent pas la parole de Dieu avec impartialité. Face à un adversaire,
nous devrions nous efforcer avec sérieux de présenter les sujets de manière à éveiller la conviction dans son esprit, au lieu de chercher simplement à rassurer le croyant. Quel que soit le progrès intellectuel de l'homme, qu'il ne pense pas un seul instant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche approfondie et continue des Écritures pour obtenir plus de lumière. En tant que peuple, nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie. Nous devons veiller avec zèle afin de discerner tout rayon de lumière que Dieu nous présentera. Nous devons saisir les premières lueurs de la vérité et, par une étude accompagnée de prières, une lumière plus claire peut être obtenue qui pourra être présentée aux autres. Témoignage, volume 5, 708.
Les protestants de l'époque de Miller refusèrent de se soumettre aux règles de Vatinor et choisirent d'ignorer le mot « also » au verset 14, lequel indique, du point de vue grammatical, que « the robbers of thy people » représentait une nouvelle puissance introduite dans le déroulement des événements décrits dans les versets au sein desquels se trouve le verset 14. Uriah Smith fit exactement la même chose lorsqu'il ignora les preuves grammaticales montrant que le roi du Nord du verset 36 puis du verset 40, devait être le même roi du Nord qui était le sujet depuis le verset 31.
Aujourd'hui, ceux qui enseignent que les États-Unis sont les « voleurs » emploient un passage de Sir White qui identifie la puissance papale et les États-Unis comme les deux principales puissances persécutrices des derniers jours, et en tordent la grammaire pour soutenir que la référence au « vieux monde » que Sir White utilise pour définir l'Europe représente en réalité l'histoire passée. La grammaire du passage prouve qu'il s'agit d'une hypothèse erronée, et la manière dont Sir White emploie « vieux monde » dans le passage concorde avec la façon dont elle l'emploie ailleurs dans ses écrits. Ce faisant, elle est également en accord avec les historiens qui utilisent l'expression « vieux monde » en relation avec le nouveau monde pour faire une distinction entre l'Europe et les Amériques.
Le romanisme dans l'Ancien Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau Monde adopteront une ligne de conduite similaire envers ceux qui respectent tous les préceptes divins. La Grande Controverse, 615.
Grammaticalement, l'expression « will pursue » indique que les deux puissances représentées par l'Ancien Monde et le Nouveau poursuivent toutes deux la persécution du peuple de Dieu dans les derniers jours. Et il est grammaticalement fautif de prétendre que cette phrase renvoie à Ancien Monde comme à une histoire passée et au Nouveau comme au dernier jour. Ligne sur ligne, toutes les anciennes controverses de Rome enseignent aux étudiants de la prophétie des derniers jours que, lorsqu'ils s'éveilleront, l'épreuve de l'image de la bête inclura un contexte où se manifestera l'identification correcte des brigands de ton peuple. La compréhension correcte des brigands est exposée sur le tableau des pionniers de 1843 et constitue donc une vérité fondamentale qui a été confirmée par l'autorité de l'esprit de prophétie. Cela indique que, lorsque les étudiants de la prophétie s'éveilleront à leur épreuve finale, le sujet des brigands représentera également l'attaque finale contre les vérités fondamentales et l'esprit de prophétie.
Nous poursuivrons ces réflexions dans le prochain article.